reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant au rapport de Sybille Benning, développement urbain durable propice à l'inclusion sociale. Alors, nous allons poursuivre. Après, nous parlerons du rapport de Luis Leite Ramos, ensuite M. Kiefer du Congrès des régions et M. Joachim Schulz-Kranberg est présent. Vous pourrez vous présenter vous-même, je pense. Mais avant tout, je dirai à Mme Benning la parole pour qu'elle nous fasse une petite mise en bouche de son rapport. Monsieur le Président Chénard, chers collègues, peu à peu, les collègues reviennent de leur pause de déjeuner. J'espère que vous pourrez donc écouter donc l'expert qui vient donc étayer mon rapport sur le développement urbain durable. Il nous faut donc une politique d'aménagement urbain qui soit intelligente pour nous préparer à l'avenir. Voilà. Et bien sûr, puisqu'on a parlé du développement durable, ce rapport concerne donc l'objectif numéro 11, ville durable et communauté durable. C'est donc l'objectif 11 des ODD des Nations Unies. Mais bien sûr, ne vous méprenez pas, on n'est pas en train d'écarter bien sûr les zones rurales. Non, il s'agit d'avoir une bonne politique d'inclusion sociale urbaine. Et il est clair que les villes ne peuvent se passer donc des zones rurales et qu'il faut bien sûr toujours qu'il y ait un aménagement du territoire qui soit inclusif. Voilà. Il y a des tendances en Europe et dans le monde vers une urbanisation. Nous, on estime que 66% de la population mondiale vivra à l'horizon 2050 dans les villes. Donc il y a de moins en moins de place pour les logements. Il y a la ségrégation culturelle et sociale et ça a une incidence aussi sur l'environnement. Et bien sûr, étant donné qu'il nous faut développer des stratégies d'adaptation au climat pour que les émissions de CO2, avec l'augmentation des températures, que la vie en ville reste supportable. Donc il faut absolument avoir une urbanisation, une politique d'urbanisme qui soit intelligente. Et ici même, Lisbonne, qui est quand même une des grandes villes européennes, c'est une chance que de pouvoir vous présenter ce rapport. Je vous l'ai dit, Monsieur Chanard, c'est vraiment une ville exceptionnelle. Alors voilà, il s'agit donc d'avoir des citadins qui travaillent et vivent en coexistence. Il faut qu'il y ait des bonnes connexions de transport. Il faut qu'il y ait une mobilité qui respecte l'environnement, avec aussi des offres donc d'emploi, mais aussi des offres de loisirs. Des investissements qui soient utiles pour l'avenir. Donc offrir donc une qualité de vie élevée à tous les citadins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par urbanisation durable propice à l'inclusion? On a déjà des exemples en Europe qui devraient faire école. C'est pour là que je suis très très heureuse que monsieur le professeur Joachim Schulz-Kranberg, expert, il est professeur d'urbanisme à l'université de Münster et il est lui-même donc urbaniste, développe donc des stratégies d'aménagement du territoire. Voilà. Vous pourrez peut-être vous présenter, Monsieur Schulz-Kranberg. Écoutez, peut-être j'avais dit au début de la conférence que voilà, Lisbonne, c'est l'amour tardif de ma vie. Mais voilà, l'amour, c'est aussi quelque chose qui peut susciter des larmes. Or, une des larmes, quand j'entends Lisbonne, qui me vient aux yeux, c'est que Lisbonne comptait 1 million d'habitants il y a 10 ans et maintenant pas, même pas 300 000. Et il y a une bonne raison. et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. C'est la seule capitale d'Europe qui perd des citoyens. Bon, c'est une autre histoire. Mais c'est l'histoire sociale. Mais on est quand même en commission des affaires sociales. Professeur Schulz-Gramberg.
Thank you very much for introducing me.
Merci de m'avoir présenté et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et je vous remercie d'avance pour votre attention. Vous avez entendu mon nom, Joachim Schulz-Gramberg. J'ai deux casquettes. D'abord, je travaille à l'Université des sciences appliquées de Münster, Allemagne, et aussi dans un cabinet de design urbain pour développer des master plans, des plans d'urbanisation pour Berlin. Donc voilà. La tête, c'est donc le cercle entre les deux épaules, et ma tête est très intéressée par la conception urbaine, ainsi que l'urbanisme. Alors, c'est la discipline qui s'occupe d'aménagement des infrastructures, des espaces verts. Bon, c'est une façon de voir, mais ça ne suffit pas. Parce que l'urbanisme, c'est la démographie, les statistiques, culture, comportement, cohabitation et des interrogations sociales. Et c'est de cela que je voudrais vous entretenir aujourd'hui, donc urbanisme et inclusion sociale. Et ça, l'urbanisme, ça intéresse parce que dans certains quartiers, voilà, tout le monde veut habiter là-bas et d'autres, personne ne veut y aller. C'est assez difficile, en fait, hein, de trouver des réponses à cette question. Pourquoi certains quartiers attirent plus de monde que d'autres. Voilà.
This is a mirror.
Ça, c'est une image en miroir de moi-même. Donc ma passion, c'est les villes. Et voilà, je suis intéressée par ce que ces villes sont et ce qu'elles peuvent devenir. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir ? Je voudrais vous inviter à me suivre pendant une dizaine de minutes pour parcourir ces trois volets sur ce qu'une ville pourrait être. Ça pourrait être un incubateur, interrogation. Je voudrais vous présenter en second lieu des bonnes pratiques, quelques projets et émettre des recommandations sur des vecteurs d'action. Et je suis venue ici avec beaucoup, beaucoup de crédit de confiance en vous, car peut-être que vous pourrez donc opérer un changement dans le monde urbain à venir, hein, parce que en 2050, 66% des habitants seront des citadins. Je parle des habitants de la planète. Et donc, voilà, si on change les modes de vie, les modes de cohabitation et coexistence, on pourra aussi contribuer à la pérennité et au développement durable. Alors, bien sûr que nous avons la nature urbaine, un environnement artificiel, mais la ville, c'est aussi quelque chose qui nous enseigne des choses. Quand nous naissons, on a besoin de 1 à 2 ans pour savoir faire ses besoins. On a besoin d'attendre jusqu'à 18 ans pour pouvoir conduire une automobile et avoir aussi donc un B.A.B.A. pour interpréter le monde aussi au sens éthique. Donc nous sommes un animal politique qui existe dans l'espace public. Nous vivons sous la protection de la famille et dans une culture publique que nous partageons avec d'autres espèces. Donc je voudrais vous parler de cet espace public. Rome en blanc. C'est là où les gens se rencontrent, où les gens travaillent. C'est les espaces blancs. Donc il y a les espaces à l'intérieur et à l'extérieur, autour des cathédrales, des églises, qui sont des espaces ouverts, publics, accessibles. Donc, il est permis d'y être. Voilà, c'est un modèle de ville ouverte qui est un modèle tout à fait intéressant et c'est le modèle de la ville européenne. Vous avez les résultats de Google, la ville européenne, Lisbonne, entre autres, et bien d'autres villes dont vous provenez probablement. Donc nous traitons de la ville européenne et nous voulons savoir ce que la ville peut faire quand elle est bien planifiée, quand on sait bien aménager les espaces urbains. En Pologne, bon, il ne s'agit pas de construire des centres commerciaux qui sont régis par toutes sortes de réglementations. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, on parle donc de rues, de squares, de places publiques. Donc, la condition urbana à droite, vous avez donc un mode de vie. Coexistence positive, la condition urbana, et non pas donc des clusters compétitifs. À gauche, vous avez ces clusters compétitifs, donc qui sont en concurrence. Nous voyons une tendance générale, le secteur public se retire. On a la construction de bâtiments. Et il y a aussi un affaiblissement de l'autorité de réglementation dans le domaine de l'urbanisme. À Berlin, entre 2001 et 2015, Berlin a vendu 160 000 hectares d'espace public et du coup, la ville ne peut plus avoir une influence sur l'urbanisme. Ce sont des investisseurs privés qui, eux, peuvent donc influencer. Et leur intérêt premier n'est pas d'étayer le bien commun et l'espace public. Donc, vous avez donc plutôt des patates comme à gauche et chacune de ces pommes de terre a sa propre logique et n'est pas nécessairement intéressée à savoir ce que fait ou qui est son voisin. Donc, c'est un urbanisme ou une urbanisation différente. Et les municipalités devrait être en mesure de maintenir la cité, la ville, comme étant une ville ouverte, comme ressource, comme le dit cette citation. C'est une ressource qui nécessite de l'entretien, un certain encadrement, une réglementation pour que la ville soit un lieu intéressant et positif. Avant d'arriver donc aux bonnes pratiques, je voudrais vous présenter ce livre de Doug Saunders, Arrival City. Ça traite aussi des villes européennes également. Il y a Londres, Pologne, Paris, France, Istanbul, les Pays-Bas. Donc c'est l'histoire d'émigration vers les villes. Toutes ces villes connaissent bien sûr une histoire de migration et à long terme, ça peut être positif. Et Doug Saunders a constaté que la seconde génération de migrants ont compris que voilà, en étudiant à l'université, on peut devenir un membre part entière de la société et contribuer à l'enrichissement de celle-ci. Voilà, c'est donc les migrants qui deviennent citoyens et c'est la ville qui permet aux gens de devenir des citoyens, c'est-à-dire des animaux sociaux et politiques. Donc voilà, la cité, la ville, c'est vraiment le terrain d'apprentissage pour devenir des citoyens. Il y a évidemment un très très grand débat là-dessus, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, avec cette théorie, mais voilà, je vais passer tout de suite à la pratique. J'ai compilé 6 références, 6 dossiers, d'une part des projets qui concernent l'habitat et la communauté, et d'autre part des quartiers proactifs. Bon, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je prends les 2 projets à gauche. Donc une ville allemande du nom de Tübingen, pas très loin de Strasbourg. Tübingen, c'est à peu près sur la même latitude que Strasbourg. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de projets d'aménagement, Loreto, il y a aussi le quartier des Tisserands. Ils ont réaménagé et installé, construit beaucoup de logements nouveaux. Vous le voyez sur le site de la ville, il y a eu création d'emplois. Donc, ils ont su à Tübingen avoir un chassé-croisé de fonctions avec des projets nouveaux, appartements de luxe ou industrie, PME, des magasins, mais souvent on ne trouve pas donc ce genre de panachage. À Tübingen, ils ont su le faire très très bien. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, parce qu'ils sont suivis d'un concept particulier. C'est une procédure donc par appel d'offres. Il y a une liste de paramètres qu'il s'agit de respecter pour aménager la ville. Il y a la densité, par exemple, l'urbanité, les espaces publics, usage mixte, diversité, le plan au sol, etc., l'usage donc des rez-de-chaussée, etc. Tout ça, donc ça s'applique avant qu'un investisseur achète un terrain. Voilà. Vous pouvez acheter un terrain, disons celui-ci pour 8 appartements ou l'autre à côté pour 20, la construction de 20 appartements, mais avant de pouvoir acheter, vous devez donc faire ou remplir cette procédure. On vous demande vos concepts. Vous voulez quoi? 8, 20 appartements ou des usages mixtes? Donnez-nous votre concept d'urbanité, de diversité, de mixité. Hein. Et ça, c'est un PDF de 10 pages. Après quoi, il y a la sélection. C'est donc un appel d'offres. C'est donc comme un feu de circulation rouge, orange et vert, et ils prennent les meilleurs projets. Les investisseurs reçoivent une option pour le terrain, et pendant 6 mois, bon, il faut qu'ils montrent patte blanche, donc ils doivent montrer leurs finances, etc. Quand ils ont tout complété, répondu à tous les critères et qu'il y a eu donc une dernière réunion et discussion, alors la ville autorise à acheter le terrain. Et voilà, c'est une façon donc pour la ville, la municipalité, d'avoir une influence sur ses investisseurs. Et si ça ne convient pas, eh bien, ils peuvent passer à l'offre suivante. Et ça encourage les municipalités à vraiment être aux manettes et à choisir leurs investisseurs. C'est comme un mariage, on n'épouse quand même pas la première personne venue sur le trottoir. On regarde les qualités, on voit les compatibilités, est-ce qu'on connaît la personne quand elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur. Donc il faut un tout petit peu de temps avant de décider de vendre et de laisser construire. Parce qu'après, il est clair qu'une fois que vous avez donné le permis de construire, c'est bon pour au moins 15, voire plus longtemps encore. Après, vous avez donc les pistes cyclables, vous avez donc des villes qui sont très piétonnes, des cours intérieures très vertes, des espaces publics agréables, des balcons, des terrasses, des lieux où on souhaite donc passer un peu de temps. Donc Tübingen, depuis 1995, applique cette procédure d'appel d'offres. Ça marche très bien et ils sont pionniers avec cette procédure d'appel d'offres pour les terrains constructibles. Ça, c'était le premier exemple positif. Deuxième exemple, bon, ça c'est... Ce n'est pas donc une mesure d'urbanisme pour une ville entière, mais un chantier à Kalkbreite, ça ne se traduit pas. C'est à Zurich. Il s'agit de ce bâtiment. Pourquoi est-il intéressant? Eh bien, il a été construit sur un dépôt de tramway. À Lisbonne, vous en avez beaucoup, donc vous savez comment ça marche. Vous avez donc les trams dessous et autour. Il y a donc les immeubles et au-dessus, il y a une cour publique en dessus du dépôt des tramways. Vous voyez ici des bureaux qui regardent le dépôt à l'intérieur. Donc c'est assez complexe cette construction. Le tramway sort Il y a des bureaux ainsi que des logements au-dessus du dépôt de tramway de Zurich, Kalkbreit. C'est un projet qui a été développé par une association de logement, Wohnbaugenossenschaft, donc des coopératives des coopératives de construction de logements. Donc vous avez les trams à l'intérieur, à côté il y a des cafés. Vous pouvez regarder, il y a aussi un sauna, il y a un jardin sur le toit, il y a un hall d'entrée, il y a une bibliothèque. Ce sont donc des lieux de partage pour tous les habitants de l'immeuble. Il y a une centaine d'appartements et il y a toutes ces couleurs. Donc vous voyez qu'il y a des fonctions commerciales également. Or, c'est étonnant car vous avez un bar, il y a une cuisine, il y a aussi un lieu où on peut faire des fêtes, fêtes d'anniversaire par exemple, un jardin d'enfants, un petit cinéma, des restaurants, fleuristes et aussi un lieu pour les sans-papiers où ils peuvent séjourner, ou même pour les femmes migrantes sans passeport qui doivent accoucher et donc elles peuvent séjourner là. Vous voyez, ce n'est pas évidemment un projet d'aménagement de logement, mais c'est beaucoup plus que ça puisque ça inclut toutes ces fonctions. Donc c'est une composante très importante pour la ville car ça absorbe les cultures environnantes et on a tout intégré dans ce projet-là. Il y en a d'autres, bien sûr. Certains viennent, qui connaissent des procédures intéressantes à l'heure actuelle d'urbanisme. Bon, dans mon document écrit, il y a plus de détails. Bon, Kalkbreit à Zurich, c'était un des premiers projets qui était pionnier en son genre. Après, beaucoup d'autres projets ont emboîté le pas. Un projet de migrants, par exemple, un projet résidentiel où il y a beaucoup donc d'équipements, aussi des logements bon marché ou encore des migrants qui ont construit cet immeuble et il y a un restaurant. C'est pas un projet alternatif, c'est un projet officiel. Et il y a aussi un autre projet de logement donc à Berlin. On a des publications à votre disposition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de projets en cours de préparation et c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. Car il s'agit de trouver des vecteurs d'action pour soutenir ces projets, puisqu'ils vont soutenir et favoriser l'inclusion sociale, étayer les espaces publics et consolider les intérêts publics. Voilà, il y a à peu près 6 vecteurs d'action. Donc le premier, ou la première mesure peut-être, serait d'attirer l'attention des municipalités aux possibilités donc d'urbanisation alternative. Il faut observer ce qui se passe dans la ville et envisager donc ce qui se passe. Faire une liste d'usages mixtes ou d'avoir aussi des projets qui soient donc conviviaux vis-à-vis donc des piétons. Vous pensez que c'est pas possible? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Les villes, c'est toujours étonnant. On trouve des solutions à toutes sortes de choses. Alors, il y a aussi besoin d'autonomiser, donner les compétences aux décideurs municipaux. Parfois, je me dis que l'urbanisme, c'est faible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui intéresse le quotidien. Or, en Allemagne, par exemple, les personnes qui travaillent dans les municipalités, ils s'intéressent donc pour des projets donc des permis pour construire un garage, et ça prend 3 jours pour avaliser ce projet, alors qu'il y a d'autres très très grandes questions en attente. Donc il faut donc se concentrer sur les faits durs, vendre des lotissements, des terrains, en tenant compte des différents critères, avoir des projets donc qui partent du bas, des faits, pour remonter. Donc, vous avez des directives. Ce ne sont pas des directives, mais plutôt des incitations. Un exemple, il y a 100 ans, c'était à Boston. Il y a eu un promoteur qui voulait construire un immeuble, un gratte-ciel. Et la ville est venue lui dire, oui, on voudrait quand même avoir un terrain public. Le promoteur a répondu, oui, mais je ne vais pas gagner assez d'argent si c'est public. Moi, je ne peux pas. Je veux quand même louer ou vendre. Mais pourquoi ne pas rajouter des étages au-dessus et avoir les parties publiques en bas? Et ça, c'est excellent, puisque le promoteur a tous les mètres carrés dont il a besoin pour donc développer son immeuble. Mais en bas, vous avez un métro avec un square et toutes sortes d'autres fonctions. Et la ville bénéficie de ce genre de projet. Quatrièmement, donc les procédures d'appel d'offres. Ça paraît simple, c'est simple, mais il faut le soutien politique et les encouragements pour initier ce genre de procédure, puisque ça ne correspond pas du tout au statu quo actuel en matière d'urbanisme. Donc on a besoin donc de l'intervention politique, d'encouragement. Alors, reconnaître les activités du bas vers le haut. Donc voilà, la ville self-made city. Donc, ces initiatives sont parfois très précieuses car ça n'absorbe pas toutes les capacités de l'autorité d'urbanisme puisque l'on fournit en tant qu'autorité d'urbanisme des directives, des critères. Et on a beaucoup d'exemples. Et après, voilà, par la numérisation, on peut créer donc des plateformes numériques pour les communautés, pour les projets financés collectivement, etc. Et enfin, il s'agit de terrain. Comment est-ce qu'on peut renforcer ces idées? Bon, c'est comme je suis souvent devant un conseil municipal, voilà, on m'écoute, on me serre la main, vous avez un avenir très rose devant vous, mais après, plus rien ne se passe. Alors, on a besoin de personnes engagées dans les villes qui suivent en continu et qui surveillent aussi les projets, qui recherchent la qualité, il faut qu'il y ait un budget et ce budget peut être facilement généré par ce cercle, donc ce croquis, c'est la chaîne de valeur ajoutée avec un chiffre d'affaires élevé quand on transforme des terrains agricoles en terrains constructibles, après on aménage les terrains et ça implique beaucoup d'argent bien sûr, il faut utiliser cet argent pour quand même prévoir une procédure de surveillance et d'encadrement de ces projets d'urbanisation. Voilà, c'était très rapide, vous avez donc les différentes orientations, les 6 pistes, les 6 vecteurs. Si vous êtes en faveur de l'idée d'une ville comme incubateur qui permet de promouvoir les intérêts communaux, l'inclusion sociale, notamment, alors vous avez donc la possibilité d'avoir cette cohabitation fructueuse, des bénéfices économiques et sociaux, et qui permet donc de créer et préserver ces biens communs. Merci beaucoup.
Ok, the first who called for the floor.
Première demande de parole, John O'Reilly. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je voudrais d'emblée féliciter notre collègue allemand, notre collègue Sibyl, qui a beaucoup travaillé pour nous apporter pour rédiger ce document et remercier le professeur de son apport. Je voudrais poser des questions plutôt que de faire des déclarations au sujet des différents thèmes. Je voudrais donc poser des questions, ce qui sera peut-être plus utile. Que pensez-vous, professeur et Sibyl, que pensez-vous du concept de la construction en hauteur nos villes sont densément peuplées et il y a donc une pression sur les transports, sur les services, sur la prestation de services en dehors des villes. Donc, que pensez-vous donc de la construction en hauteur et ce faisant, comment évitez-vous les problèmes sociaux qui découlent de cette construction en hauteur? Par exemple, la séparation entre les générations. Ça, c'est la première question. La deuxième, comment pensez-vous que vous pourriez dépasser la question du statut dans les logements sociaux? Vous avez parlé de la dérive vers le secteur privé. J'aimerais vous raconter une histoire quand j'étais enfant. Il y avait un stigmate qui était lié au fait que l'on habitait dans un logement social. Et donc, maintenant, il semble qu'il y a une certaine snobisme. Pourriez-vous nous dire comment résoudre ce genre de problème? Vous avez fait une remarque sur le coût du logement. Le coût de l'achat de logement également. Comment pourrions-nous contourner cette difficulté avec des bails des baux de longue durée et des loyers accessibles? Vous avez également parlé de la dimension multiculturelle. Lorsque l'on choisit de construire un projet grâce à un système différent d'un appel d'offres commune, cet élément entre en compte. Mais donc on présentera tout d'abord un ensemble d'options et puis les responsables de la ville présenteront leurs nécessités et l'appel d'offres se fera conformément à cela. Est-ce que cela ne deviendra pas extrêmement cher? Et donc, dans ce cas-là, les nouveaux développements, les nouveaux quartiers seront au-delà des possibilités financières des gens moyens. Ce que, à mon avis, les étudiants sont éparpillés dans toute la ville et ils enlèvent les appartements aux familles. Et je pense que les universités pourraient intervenir. Vous pourriez faire un commentaire sur ce sujet. Et enfin, la dernière remarque, la grande question, c'est la question du coût et de l'accès. Les logements ne sont plus accessibles. La solution vient du côté de l'offre. Et ensuite, l'offre de logements correct et juste et adapté. Mais ce que je remarque, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas louer, ne peuvent pas acheter et qu'il n'y a rien à louer. Et donc, c'est une situation de crise. Je vous remercie de répondre à toutes ces questions.
I want to try to give you an answer.
J'aimerais essayer de vous répondre. Je viens de Vienne. C'est la capitale du logement social en Europe. 4 800 logements sociaux, ou 480 000 plutôt, qui appartiennent à la ville. Et on essaye de faire un panachage dans ces quartiers. Par exemple, songeons à une ancienne fabrique et il vous faudra solliciter différents types d'offres. Premièrement, des logements sociaux qui émanent de la communauté et ensuite se mélange une association, disons, ou une coopération. Vous payez une partie, mais vous n'êtes pas complètement propriétaire. Et voilà ce qui est... Personne à Vienne ne cherche à acheter un appartement privé. Tout le monde souhaite louer. Et donc, pourquoi devrions-nous devenir propriétaires? Ensuite, dans ce mix, dans ce panachage, il vous faut des projets qui sont orientés sur la propriété, certes, pour éviter des ghettos. Mais vous devez construire ces quartiers avec le plein appui des différents domaines ou des différents volets de la vie, c'est-à-dire l'éducation, le sport, les commerces. Et vous devez vous rendre compte que vous êtes dans une ville où résident 169 nations. Donc, tout le monde peut réclamer une parcelle ou faire pousser ses légumes. La ville de Vienne prépare cette parcelle et la met à disposition. Au centre de la ville, il y a partout la possibilité pour les sans-abri d'avoir cultiver leurs propres légumes. Et personne ne les leur vole. Vous pouvez me croire, lorsque des tomates poussent dans ces potagers-là, personne ne viendra les marauder pendant la nuit. Donc voilà l'offre que peut proposer une ville. Une ville doit être attrayante. Elle est attrayante, par exemple, grâce au transport public. Et ces services ne sont jamais privés. Ils sont dans la main de la municipalité. Qu'il s'agisse de la gestion des déchets, de la gestion du stationnement, de la gestion du transport, tout est entre les mains de la ville. Et vous avez... Et l'on met toujours l'accent sur la pérennité. Par exemple, nous n'utilisons pas d'énergie, de combustible fossile pour le refroidissement. Et ça, avec les déchets, vous pouvez faire de l'électricité et produire ou de la chaleur ou de l'air conditionné. Donc, vous devez toujours être à la page pour ce qui est des énergies renouvelables. Mais c'est ainsi que les citoyens aiment leur cité. Ils sentent qu'ils en font partie et il vous faut leur donner la possibilité de participer à son évolution. Pendant 19 ans, j'étais responsable d'un arrondissement et on venait me dire, par exemple, les renards causent des dégâts. Nous en avons beaucoup. Et je répondis, vous vivez dans un environnement tellement plaisant, vous devez partager. On ne peut pas décimer tous les renards et les autres animaux. Vous n'avez pas besoin d'aller au zoo. Il suffit d'aller sur le palier de votre porte pour voir un renard sur ma terrasse. Je Lorsqu'il y a la pleine lune, il y a toujours un renard. Et on me dit, c'est votre renard. Et je dis, non, c'est le nôtre. Il nous appartient à tous. Donc, voilà des idées pour vous dire comment toucher les gens et développer une ville. Et maintenant, et merci d'en avoir parlé, monsieur, les réfugiés, un hôtel. Et un hôtel pour réfugiés, c'est une décision que vous devez prendre en tant que municipalité, en tant que ville. Par exemple, les gens qui sont malades du sida, ils peuvent obtenir une maison, ils peuvent un logement, ils ont une structure, ils ont de l'appui. Si des gens occupent des lieux, il faut vous adresser à eux, créer quelque chose. L'un de nos plus beaux quartiers a été occupé il y a 30 ans et c'est maintenant le lieu du premier gymnase pour femmes. C'est le lieu de nombre d'autres choses et les réfugiés ont trouvé leur place et ils ont créé un hôtel et tout le monde le fréquente. Il y a des banquiers. Où est-ce qu'ils vont pour dîner? À l'hôtel des réfugiés. Parce que vous devez chérir ce type de projet, les encadrer, car c'est utile. Mais il faut penser différemment. Ceci. Et c'est peut-être une suggestion pour votre prochaine conférence. Le quartier de Stockholm était un endroit épouvantable. Et c'était les docks. Et là, tout le monde veut y vivre. On y a créé un système tout à fait moderne et de gestion et de recyclage des déchets. Et le ferry est gratuit. Donc, il n'y a pas de voiture. Et il y a également à Vienne des quartiers qui sont entièrement piétons et vous ne pouvez pas imaginer combien les gens sont désireux de vivre dans des quartiers comme cela où il y a par exemple des bicyclettes. Savez-vous combien coûte un ticket de tram à Vienne? 1 euro pour 24 heures. Seulement 1 euro. Et ça, c'est une possibilité parmi d'autres. Voilà. Ce n'était qu'un appel pour vous faire comprendre que la ville est faite pour les gens, pour les citoyens, et que les citoyens doivent trouver leur place dans la ville, ne doivent pas être voués à la solitude, et qu'il faut que l'offre abonde dans ce sens. Et la politique des villes est quelque chose qui me touche pendant 19 ans. Et lorsque j'ai commencé la politique, j'étais à la tête d'une commune et à 7 heures du matin, je siégeais à la commission pour la construction, pour le bâtiment. Une heure après, j'étais dans la commission budgétaire. Enfin, c'est là où l'on prend vraiment le pouls de la situation, mais vous devez en parler avec les citoyens. Madame Pomasco.
Thank you very much for this interesting.
Merci beaucoup de ce commentaire si intéressant et pour ce débat qui démontre que les politiques urbaines varient selon les pays. Je viens de Gdansk, du nord de la Pologne, et c'est une ville qui a beaucoup évolué au cours des dernières années, mais dans le même temps, nous sommes dans une situation inverse. Personne ne veut louer, tout le monde veut acheter son appartement en Pologne, et cela cause nombre de problèmes. Ma question est la suivante. Les problèmes que nous connaissons à Gdansk et dans bien d'autres villes de Pologne, c'est que lorsqu'il y a un nouveau quartier résidentiel construit au cœur de la ville, car Gdansk, comme d'autres villes, ont été détruites pendant la guerre, donc nous avons encore beaucoup d'espace au centre des villes pour des nouveaux développements qui sont le fait de sociétés privées, de promoteurs privés. Les prix d'achat des appartements sont extrêmement élevés. Donc, personne n'y habite, car nous ne sommes pas une société aussi riche que cela. C'est-à-dire que ces appartements sont vendus à des étrangers ou à des gens qui veulent les exploiter par la location, la location à court terme. Et ce ne sont pas des loyers à long terme. Et voilà qui détruit complètement la ville, comme Gdansk ou d'autres villes. Et on ne construit pas la ville. En revanche, on la détruit par ce type d'investissement. Mais la ville n'en retire aucun profit. Donc j'aimerais avoir un commentaire sur ce sujet. Comment réagir? Nous pensons à une nouvelle réglementation pour interdire ce type de location, mais la chose est très malaisée. Je crois que l'une des choses les plus importantes pour l'urbanisme est d'avoir une réserve de terre, car si vous êtes toujours en bataille avec le secteur privé, vous perdez toujours et vous pouvez pas offrir d'appartements bon marché. Si vous n'avez pas cette réserve, c'est trop tard. Mais peut-être que pouvez-vous récupérer de la terre pour constituer cette réserve. Par exemple, une gare ferroviaire qui devrait être démolie. Voilà notre expert de la décentralisation et nous allons prendre deux questions et ensuite Madame Benning pourra conclure. Merci. Ce débat démontre l'importance du rapport sur lequel nous commençons de travailler dans cette commission, c'est-à-dire sur la pollution atmosphérique dans votre présentation ou dans d'autres. Je n'ai pas entendu parler des questions de santé publique qui est l'élément essentiel dans l'urbanisme. Est-ce que les architectes, est-ce que les urbanistes, les maires en tiennent compte lorsqu'ils prennent des décisions importantes sur les espaces publics, sur les centres commerciaux ou sur le logement social? Dans quelle mesure tiennent-ils compte de la santé des gens qui s'y trouveront, qu'ils se soient pour leur plaisir, pour y résider ou pour y travailler? Parce que les villes sont déjà polluées et d'autres décisions doivent être prises. Donc je me demande, puisque vous êtes dans cet environnement professionnel, dans quelle mesure est-ce que l'on a remarqué et tenu compte de cette question qui est la santé des citoyens? Vous êtes peut-être au fait de ce que l'OMS, au cours des 5 dernières années, a été très active pour dégager du savoir-faire et des outils à l'intention des urbanismes en faisant référence à des questions comme la santé publique et la pollution atmosphérique. Nous avons un nouveau groupe de travail. Il existe un groupe de travail sous la houlette de la ville de Utrecht qui participera à cette première réunion des urbanismes en rapport avec la santé publique. Je crois que cette réunion aura lieu à Belfast en octobre, du 1er au 4 octobre. Nous espérons également participer à une réunion à Genève. Ce sera également la première liée à la création d'un réseau de santé publique de ce type. Donc ce sont des tendances qui pointent aujourd'hui et qui reflètent la grave question qu'est la pollution et les questions de santé publique qu'elle entraîne. Ces débats ne devraient pas avoir lieu seulement dans les enceintes scientifiques, mais être reprises dans les procédures d'urbanisme. C'est pourquoi j'aimerais avoir votre commentaire pour savoir comment, dans votre secteur, dans la réalité, dans la vraie vie, est-ce que ces questions sont déjà prises en compte? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord féliciter le rapporteur, Madame Benning, de son travail. Il s'agit d'un thème d'une très grande actualité et son document est très utile. Je voudrais également féliciter notre invité de son excellente présentation. Et à la suite de ce qu'a dit notre collègue polonaise, je voudrais évoquer un problème brûlant au Portugal en général et à Lisbonne en particulier et qui devrait figurer dans ce rapport. Je parle de la dynamique touristique que connaissent certaines villes. Pas toutes au même rythme, certes, mais au Portugal, nous avons un problème très sérieux. Une grande partie de la ville de Lisbonne et de la ville de Porto où résidait un mélange de personnes, un panachage social très important du fait du patrimoine construit. D'ailleurs, certains de ces bâtiments étaient en très mauvais état. Le boom touristique qui est la conséquence de l'intervention des sociétés low cost, mais pas seulement, ont fait que très rapidement une pression immobilière très forte s'est exercée sur toute la ville. Et les quartiers où existait ce mélange social, où il y avait cette diversité, d'un jour à l'autre, sont devenus des objets particulièrement intéressants par des investisseurs privés, individuels, mais également de grands fonds d'investissement international. Et le facteur d'attraction touristique de la ville, c'est-à-dire son authenticité, est en train d'être détruit par ce type de dynamique. Il est vrai qu'il y a là un débat qui doit être mené au niveau national, savoir s'il convient de réglementer ces investissements et ces flux et ce, de cas échéant, comment le Parlement vient d'approuver une loi qui renvoie aux municipalités une grande partie de la responsabilité de la réglementation des flux touristiques. Mais aujourd'hui, ce n'est c'est pas seulement les classes les plus modestes qui sont chassées des villes, ce sont aussi les classes moyennes. Un couple qui a un revenu moyen ne peut plus vivre au centre de la ville. Et c'est un problème très grave, car d'un moment à l'autre, cette pression immobilière qui se maintient est en train de métamorphoser la ville. Et je ne parle pas des nouveaux des quartiers ou des nouveaux développements urbains. Du point de vue professionnel, moi-même, j'ai consacré une partie de mon temps à traiter de ces questions. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'approche qui a été présentée ici. Mais cette réalité qui est celle de Lisbonne et de Porto pose de nouvelles questions, de nouvelles problèmes, de nouveaux problèmes. Jusqu'où doit aller la réglementation? Est-ce que la question de l'offre de logement social que nous avons eue, nous avions par le passé, mais qui est en péril à l'heure actuelle, parce que souvent le logement social crée des ghettos et n'est pas favorable à la diversité sociale que nous appelons tous de nouveau. Ma question est celle-ci. Comment faire cette réglementation, selon quels termes et comment pouvons-nous garantir, par l'intervention de l'État, c'est évident, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire, comment pouvons-nous faire pour garantir cette diversité dans ce contexte de la réhabilitation, de la régénération urbaine des quartiers les plus traditionnels de nos villes. Merci. Merci. Madame McCarthy.
Une question. Je ne pense pas m'être rendue dans une ville qui serait aussi compliquée donc pour quelqu'un qui a des problèmes de mobilité que Lisbonne, parce que voilà, les trottoirs sont quand même très étroits, les trams ne seraient pas accessibles, il y a beaucoup de pavés. Donc vous parlez d'accessibilité, mais il y a quand même beaucoup de villes où vous avez donc un contexte historique qui fait que les choses nouvelles, d'accord, peuvent être accessibles, mais pas les anciennes. Je voudrais entendre les collègues portugais. là-dessus, parce que pour une bonne partie de Lisbonne, ma nièce ne pourrait pas, donc, puisqu'elle est dans une chaise roulante, se déplacer. Mais Venise est pareil. Eh bien, disons que Lisbonne est quasiment un paradis comparé à Venise, dit le président. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Beaucoup de questions ont été posées. Ensuite, madame Benning prendra la parole. Merci pour toutes vos observations, beaucoup de questions. J'ai vraiment l'impression d'avoir été écoutée et j'ai beaucoup apprécié vos interventions, d'ailleurs. Je vais commencer par votre question. Il y a des conférences sur la ville européenne. Ces conférences disent que les villes idéales, comme Venise, Lisbonne, Porto, Paris intramuros, c'est ça les villes européennes. Mais en fait, la plupart de nos réglementations d'urbanisme interdisent de reproduire ces villes-là, ces villes considérées comme idéales. Alors, si vous avez la topographie de Lisbonne, impossible. Donc, voilà, il faut maintenir les qualités de la ville, mais pour les nouveaux projets d'urbanisation, il faut bien sûr faire ce qu'on sait le mieux faire, donc avec les ascenseurs. Et donc, pour chaque phase d'urbanisation nouvelle, il faut appliquer, bien sûr, les nouvelles approches, mais pas détruire la culture historique. La question du tourisme et les retombées, les commentaires sur le logement social, la stabilité des prix du logement. Le tourisme, c'est bien pour une ville, ça apporte de l'argent, mais on ne peut quand même pas permettre que le tourisme étrangle une ville et l'asphyxie. Et c'est le cas de nombreuses villes, le tourisme a changé la donne. Donc, dans chaque projet qu'on met en œuvre, il doit y avoir une liste locale de critères, des critères municipaux. Donc, lorsqu'un promoteur arrive et qu'il vous montre son concept, bien sûr, l'argent, c'est intéressant, il faut l'apprécier, mais qu'est-ce que la ville va retirer de votre projet? Ça va être une barrière, une porte, un espace public ou encore une belle terrasse sur le toit ouverte au public. Il faut résister à la tentation. Le concept est bon, mais on a besoin de ceci et cela. Il faut intégrer les deux. Toujours dans le dialogue. Quelquefois, c'est porteur. Quelquefois, ça se solde par donc un désaccord. Voilà, les investisseurs, ils viennent, c'est des grands pontes. Varsovie est un bon exemple. Je connais la ville. Il y a tellement de projets d'urbanisme, c'est pas fait pour les habitants. Or, ça devrait être un critère. Il faut des projets qui intéressent et servent les habitants de la ville. Comment s'y prendre? Ça revient à votre commentaire et au vôtre aussi. Donc, avoir une garantie à long terme que tout ce que vous allez faire doit rester abordable. Prenez la tradition des associations, des coopératives de logement. Or, c'est la configuration la plus stable pour créer des espaces à long terme et des espaces qui restent abordables. Il y a une tradition à Vienne, à Berlin, de ces coopératives. Et donc, bien souvent, ces solutions sont souvent meilleures que les projets d'investisseurs, car ils produisent des immeubles et ils sont obligés, bien sûr, d'avoir un pourcentage d'appartements qui sont abordables et un certain nombre d'années. Après, ça augmente les loyers. Donc voilà, je crois que le logement social aussi a son rôle à jouer. Dans beaucoup de pays, on a mis sous le paillasson ces logements sociaux. Or, je pense qu'on pourrait envisager de réintroduire les logements sociaux. Peut-être que ça se présentera différemment dans 20-30 ans, mais il faut une liste de critères pour le nombre de logements, les niveaux de loyer et les différentes conditions. Voilà, si il faut dépenser pas plus d'un tiers pour le logement. Si c'est plus qu'un tiers de vos revenus mensuels, alors l'équilibre est détruit. détruit et vous n'aurez pas une vie bien équilibrée. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais si ce n'est pas le cas, je suis là pour dialoguer avec vous. Voilà, j'espère avoir couvert toute cette ribambelle de questions. Je reste là. Posez-les-moi ou reposez-les-moi. Madame Benning, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est un tout petit peu à court de temps, donc soyez succincte, madame. D'abord, je souhaite remercier les collègues pour l'intérêt très vif dont vous avez fait montre pour ce sujet. Et c'est vrai que c'est un processus que j'ai voulu engager, car c'est important, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, beaucoup de gens, et ça concerne les ODD, notamment l'ODD numéro 11 concernant l'urbanisation durable. Bon, bien sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes ces questions, c'est comme M. Leiter-Ramos l'a dit, c'est un processus, et bien sûr, nous voulons donc un développement qui permette la diversité. Et voilà, il faut comprendre à quel moment est-ce qu'on a donc une possibilité d'avoir une influence. Donc, nous avons la même expérience à Berlin avec les touristes. Nous avons pris note des questions qui ont été posées et nous allons essayer quand même de trouver des réponses. Mais bien sûr, le temps manque pour aller plus dans le détail. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'accord entre nous, mais aujourd'hui, il y a un congrès national sur l'urbanisme urbain et c'est en fait la communauté des villes allemandes qui a décidé de créer un fonds pour l'achat de propriétés terriennes qui seront réservés à des projets de développement pour le bien commun. Et je crois que ça résume bien la motion que nous aimerions bien sûr avancer. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les transmettre à l'oral, à l'écrit, par email. J'y répondrai ou j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Merci en tout cas au professeur Schulz-Kranberg pour son exposé et ses réponses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien que nous soyons en phase avec l'Allemagne. Et car en plus, c'est l'heure du rapport de Monsieur Luis Ramos, décentralisation régionale.
Thank you to you. Thanks to Sibylle Benning.
Merci à Sibylle Benning. Merci au professeur Schulz-Kranberg. Et nous allons prendre le prochain point. Impact social ou sociétal des économies de plateforme. Le rapporteur est Luis Leiter-Ramos. Nous avons deux orateurs invités. Diego Zauza de Alte, expert juridique. Madame Claudia Monta de Aguiar. Elle est membre, elle est eurodéputée.
Mr. Zauza de Alte, please take a seat, please. First, Luis, can you make some introductory...
Luis, est-ce que vous pourriez faire la mise en bouche, s'il vous plaît?
Merci beaucoup. Deux ou trois remarques très simples. Tout d'abord, cette réalité qui s'appelle l'économie des plateformes ou l'économie du partage ou qu'on appelle encore différemment, est une réalité incontournable dans tous les pays, pas seulement les pays du Conseil de l'Europe, mais partout dans le monde. Et cette réalité qui aujourd'hui a un poids économique très grand mobilise un ensemble d'activités, crée une kyrielle d'emplois et apporte également un cortège de problèmes, non seulement pour les États et pour les agents économiques. La question qui est à la base de ce rapport porte sur trois aspects. Le point de vue des consommateurs, le point de vue des agents économiques pour ce qui est de l'emploi et des droits sociaux liés à l'emploi et pour ce qui est de la fiscalité. Quels sont les risques et les avantages que présente cette nouvelle réalité? Les informations dont l'on dispose, les rapports de l'OCDE, du Parlement européen, mettent en lumière un ensemble de problèmes qui doivent être analysés très minutieusement pour faire des recommandations aux différents États et d'aboutir aux modifications législatives qui sont nécessaires pour défendre ces droits, droits sociaux et droits économiques, et pour garantir également une équité fiscale, une justice fiscale, quelque chose dont on a beaucoup parlé au sein de cette commission et au sein du Conseil de l'Europe. C'est un sujet d'une très grande importance. Voilà, le débat de cette note introductive tombe à pic au Portugal. Demain entre en vigueur la nouvelle loi des plateformes de transport et les chauffeurs de taxi vont se manifester ici devant le Parlement. Si nous nous réunissions ici demain, eh bien nous arriverions en pleine manifestation des chauffeurs de taxi qui se manifestent contre cette nouvelle loi. Voilà comme le décor planté. Nous voudrions aboutir à des recommandations à l'endroit des différents États, des recommandations qui défendent les droits des consommateurs, les droits sociaux des travailleurs et une justice sociale dans cette activité économique, une justice fiscale, pardon, de cette société, de cette activité économique qui est beaucoup plus difficile à réglementer et à surveiller que les autres. Je voudrais remercier Tiago Sousa d'Alte, qui est un spécialiste portugais de ces questions. Il nous a aidé à préparer le projet de loi que nous avons présenté à l'Assemblée parlementaire portugaise, qui porte sur les plateformes de transport. Et Cláudio Monteiro d'Aguiar est député européenne. Elle a travaillé un rapport semblable dans un autre encadrement, mais avec des conséquences ressemblantes. Ce sont donc deux personnes qui peuvent nous aider à éclairer notre lanterne et à mener le débat qui est nécessaire pour que ce rapport voit le jour. Merci, Luís. Merci beaucoup. Bienvenue à nos deux experts. Normalement, en Autriche, on dit les dames d'abord, mais dans ce cas, je crois que c'est à vous de commencer, monsieur. La parole est donc à vous.
Sim, não. Sim. Posso falar daí também, se calhar. De aqui? Está a falar? Estão a ouvir?
Sim, estou a falar para aqui.
Ah, muito bem. Ok. 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 Thank you, Mr. Chairman, for the presentation.
Merci, Monsieur le Président, de m'avoir présenté. Comme l'a dit Monsieur Leite Ramush, j'ai eu l'occasion d'apporter, de prêter main forte au Parlement européen au sujet de la loi qui entrera en vigueur demain sur les plateformes de transport. Monsieur Leit Ramush m'a demandé de vous parler de tous les problèmes, de toutes les inquiétudes que suscitent ces plateformes et des retombées qu'elles peuvent avoir sur nous tous. L'économie du partage est quelque chose d'assez simple, ou disons, pour la décrire simplement, c'est une nouvelle façon de faire les affaires comme d'autrefois. Aucune activité économique couverte par une plateforme n'est quelque chose de nouveau. C'est des activités qui existaient déjà. Ce qui est nouveau, c'est la relation entre le vendeur et le consommateur. Maintenant, il y a un tiers, un intermédiaire qui rassemble l'offre et la demande. Ce ne sont que des intermédiaires qui ont une position neutre. Les critiques disent que ce n'est pas le cas, que la position de ces intermédiaires n'est pas neutre et qu'ils ont le contrôle de tout le secteur. Et voilà qui est très important, car cela nous permet de comprendre que cette nouvelle façon de faire des affaires, ce nouveau modèle d'entreprise est quelque chose de tout à fait différent et va à l'encontre de notre modèle ancien, qui était une relation de personne à personne. La question qui se pose est très surtout à la plateforme d'exploitation. Certains disent que les grands avantages de cette plateforme, c'est qu'elle peut contourner la réglementation qui est appliquée aux entreprises conventionnelles et que par conséquent, cette façon de contourner la réglementation fait en sorte que leurs services soient plus abordables que les autres. La raison pour laquelle car les gens, par le biais de cette plateforme, n'ont pas besoin de respecter les réglementations qui grèvent le prix des transports et du logement généralement. Il est important de comprendre dans quelle mesure la plateforme exerce un contrôle sur l'activité et qu'elle n'est pas qu'un simple fournisseur de services électroniques. Pour ce qui est des plateformes de transport, notamment Uber et d'autres, il est évident que la plateforme est l'aspect décisif de cette activité et que les plateformes exercent un contrôle sur l'activité. C'est eux qui ont la liste des chauffeurs disponibles, quels sont les critères auxquels ils doivent répondre, l'évaluation des clients. Les gens appellent les chauffeurs de Uber, non pas à cause des chauffeurs, mais à cause de Uber. Donc la caractéristique de la plateforme, c'est elle-même. Donc, pour certaines personnes, il est insensé que ces plateformes ne soient pas réglementées comme faisant partie du secteur d'activité des transports. L'argument des plateformes est non, nous ne faisons que proposer une nouvelle mobilité adaptée au 21e siècle. Nous n'avons rien à faire avec l'activité du chauffeur lui-même. Le chauffeur et son client sont en contact direct. Donc, toutes ces taxes devraient incider sur ces gens-là et non pas sur nous. Alors la question est celle-ci. Est-ce que les obligations légales qui sont appliquées aux sociétés qui sont actives sur le marché devraient être appliquées aux plateformes ou pas? Récemment, une affaire très célèbre a été tranchée par la Cour européenne de justice. La Fédération des taxis de Barcelone a traîné Uber en justice. Uber est actif massif à Barcelone en déclarant qu'il devrait être défini en tant qu'exploitant de transport et donc respecter toutes les réglementations qui sont appliquées aux taxis. Les taxis sont un cas extrême de conflit car dans toutes les villes, il y a des taxis qui partage le fardeau de la réglementation qui vient du nombre limité des taxis sur le marché. Uber a su contourner cette limitation et fournir des services sans devoir respecter ces réglementations. Donc l'argument du chauffeur espagnol était de dire ce sont des transporteurs eux-mêmes, même s'ils ont un costume à la mode que l'on peut appeler plateforme électronique, et ils doivent respecter les mêmes réglementations que nous. La Cour de justice a accepté a soutenu la cause des chauffeurs espagnols et qualifie Uber d'entreprise de transport et donc devrait supporter toutes les exécuter et respecter toutes les réglementations. Encore une fois, on peut penser que ces plateformes de transport joue un rôle essentiel dans la relation entre le client et le fournisseur. Mais elles sont plus qu'un opérateur ou un exploitant de transport. Elles apportent quelque chose de nouveau. On ne saurait donc leur appliquer l'ensemble des règles. Et la question est de savoir comment réglementer cette nouvelle façon d'exercer cette activité et comment est-ce que cette obligation légale devrait être partagée entre la plateforme, le chauffeur et la clientèle. Et voilà les défis que pose ce nouveau type de mobilité à tous les législateurs dans le monde. Certains des problèmes que l'on voit au Portugal et également dans d'autres pays d'Europe et en particulier aux États-Unis, Uber a vu le jour aux États-Unis et l'on voit que des problèmes se posent dans ce pays mais que l'on ne connaît pas encore en Europe, mais ils y arriveront, notamment la question de la discrimination raciale, du sexisme et du traitement des grandes données. Ce sont autant de problèmes que posent ces plateformes et que les régulateurs doivent attaquer de front, notamment le besoin d'une réglementation harmonisée. Ces plateformes ne demandent pas de permis à une échelle nationale. Normalement, ils demandent une autorisation d'exercer à l'échelon local, c'est-à-dire municipal. Municipalité par municipalité. Et on trouve Uber à Lisbonne, à Porto, ils vont intervenir en Algarve et en Espagne, la chose se présente sous la même forme. Donc, ces sociétés traitent avec les autorités locales et les lois sont différentes selon les villes. Donc, les coûts de conformité sont extrêmement chers. Par exemple, si chaque pouvoir local, chaque autorité locale veut appliquer ses règles à sa façon, eh bien les coûts de conformité seront extrêmement élevés. Et c'est un enjeu pour le législateur que de concevoir des lois communes au niveau national à tout le moins et peut-être au niveau européen. Un autre enjeu, c'est la création de nouvelles règles pour un nouveau service. C'est un problème juridique ordinaire. Par exemple, lorsque vous avez un contrat d'achat où il y a deux parties. Mais dans le contrat dont il est question ici, il y a trois parties. Il y a le chauffeur, il y a le client et le tiers. Donc, comment réglementer des contrats où il y a trois parties? Il faut de nouveau nouvelles règles. Qui doit porter le fardeau des exigences en matière d'assurance? Qui est responsable du respect des normes de qualité? Qui doit collecter toutes les données qui sont introduites dans la plateforme par les clients et les chauffeurs? Qui est chargé de vérifier le curriculum des chauffeurs? Si vous les recrutez, il faut le faire. Donc, il faut faire des règles spécifiques pour ces activités en répartissant le poids de la réglementation sur les différents intervenants. L'un des problèmes les plus graves, à mon avis, c'est le droit des travailleurs. Les gens travaillent pour ces plateformes. Et aux États-Unis, il y a eu beaucoup de jugements judiciaires qui considéraient que les chauffeurs étaient des employés de Uber. Par conséquent, ils avaient tous les droits des travailleurs, tous les droits d'un salarié ordinaire dans une situation qui aurait un contrat de travail ordinaire. Dans d'autres cas, on a simplement dit, et c'est le cas de Uber, qui dit nous ne faisons que fournir un service, nous coordonnons l'offre et la demande. Ces gens ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour eux, et nous n'avons aucune responsabilité par rapport à eux. Voilà qui est encore accentué par le fait que les salaires, ou disons mieux dit, le pourcentage du profit est partagé avec Uber et que le revenu du chauffeur est extrêmement modeste et dépend finalement de ce que Uber l'autorise à gagner. Donc les revenus du chauffeur dépendent de la performance de la plateforme. Le chauffeur travaille en conformité avec les instructions de la plateforme. Il ne peut offrir ses services qu'à des clients choisis par la plateforme, mais la plateforme dit ces gens ne travaillent pas pour nous. À mon avis, je pense qu'une nouvelle législation doit être conçue et adoptée pour garantir que si les chauffeurs dépendent de ces plateformes pour exercer leur activité, si ce n'est pas eux qui contrôlent leur performance et la dispensation de leurs services, ils doivent être considérés comme des employés et que la plateforme devrait en assumer la pleine responsabilité. Nous avons vu que beaucoup de problèmes se posent pour les chauffeurs qui s'épuisent au travail, qui ne disposent pas de correctes conditions de travail. Certains chauffeurs travaillent avec deux ou trois plateformes l'une après l'autre, donc par roulement entre les plateformes. Donc cela pose également des questions de sécurité et donc des problèmes que nous devons traiter aussi vite que possible. Monsieur Sosa, dit le Président, je sais que les experts juridiques essayent de mettre en évidence tous les points et tous les petits détails, mais nous devons aller de l'avant. Nous devrons terminer notre réunion d'ici une demi-heure. Donc, je voudrais encore évoquer la question de la fiscalisation. La question de la fiscalisation est le suivant. Normalement, ces plateformes ont un siège dans un pays et à partir de là, offrent leurs services dans une multitude d'autres pays. Cela pose le problème du partage des recettes de la fiscalité qui ne sont pas perçues dans le pays où le service est effectué, mais dans le pays qui offre le meilleur régime fiscal. C'est donc une question qui doit être traité au niveau européen, au multinational. Et la question du contrôle du marché. Leur stratégie est généralement de fournir des services à bas prix pour exclure de la concurrence toute autre société. Et puis, une fois qu'ils sont implantés sur le marché, ils augmentent les prix parce que la clientèle est sous leur contrôle. Merci beaucoup. Madame Aguiar, je vous prie de prendre la parole.
Muito boa tarde a todos. Cumprimentar. Vou esperar que coloquem os auriculares. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão.
J'aimerais saluer le président de la Commission et également mon collègue et ami et parlementaire de cette maison, M. Louis Leitremge, collègue de panel. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Lisbonne et au Portugal, et je m'exprimerai en portugais avec votre permission. J'essaierai d'être rapide, mais comme au Parlement européen, nous avons généralement 3 minutes, j'essaierai d'aller très vite. La définition de ce qu'est l'économie du partage a déjà été donnée, mais au fond, nous discutons du terme économie du partage collaborative. Il y a différentes définitions qui doivent encore être précisées. Le terme qui est utilisé au sein des institutions est celui d'économie collaborative. Et comme cela a été dit, il s'agit d'un modèle d'activité où il y a 3 acteurs, les prestataires de services, les utilisateurs des services, mais également les intermédiaires qui, à l'heure actuelle, sont des plateformes en ligne. Pourquoi ? Parce que nous vivons à une époque du numérique, après une révolution industrielle. À l'heure actuelle, nous vivons en pleine révolution technologique et numérique et nous devons donc nous adapter à cette situation. Et les légiférateurs au niveau européen et dans tous les États membres doivent eux aussi s'adapter à cette situation et adapter la législation à ces nouvelles technologies tout en sauvegardant les prestataires de services mais également les utilisateurs. Vous dire également que cette économie du partage ou collaborative ne se limite pas au transport, elle existe au niveau du logement local, elle croît également dans le domaine financier et en ce qui concerne toutes les compétences en ligne. Quelques données en ce qui concerne l'Union européenne. La dimension de l'économie collaborative par rapport à l'économie totale de l'Union européenne est estimée à environ 26 milliards d'euros. Et l'indication que nous avons, c'est qu'il y aurait 384 000 personnes impliquées dans cette économie collaborative. C'est vrai que cela représente 15% de l'emploi, mais il faut que nous regardions ces nouveaux emplois et de quelle façon nous allons nous y prendre pour légiférer et accueillir ce nouvel aménagement. L'économie collaborative au Portugal, d'après les données européennes, indique que 8 400 personnes soient employées dans ces domaines. C'est un fait que l'économie collaborative a un potentiel élevé, mais la proportion par 1 million d'habitants au Portugal est tout de même l'un des plus bas de l'Union européenne. Nous avons 3 plateformes d'économie collaborative au Portugal. Plusieurs dans le domaine, plus que 3 d'ailleurs, 6 étant dans le domaine financier ou les transports, etc. Nous avons les plus gros marchés, il y a de l'économie collaborative en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Et sur ces marchés-là, les principaux bénéfices de l'économie du partage ont été identifiés comme étant une bonne possibilité d'avoir accès à une activité autonome, des opportunités d'affaires, dévaloriser le principe d'appartenance qui jusqu'ici était vu, il est toujours, la propriété est vue comme un symbole de statut et ceci a tendance à tomber, à se réduire. Après, il y a tous les impacts environnementaux en ce qui concerne le partage et l'échange de biens de consommation. Et un autre point qui est intéressant aussi, c'est l'accès au capital qui est plus aisé. Nous savons que la plupart des banques regardent les startups et les PME comme un investissement à haut risque, mais avec cette économie du partage en essor, le crowdfunding, par exemple, est devenu une façon plus facile d'avoir la possibilité de trouver des fonds pour les personnes qui sont prêtes à miser ou à investir. Autre point que j'aimerais partager avec vous, ce sont les principales propositions de la Commission européenne à cet égard. Plusieurs propositions ont été lancées, plusieurs études aussi en ce qui concerne l'économie collaborative et notamment les plateformes de mobilité et de location de courte durée, au Portugal dit logement local. Cependant, j'aimerais aussi ici manifester une critique. J'espérais que la Commission européenne ait fait un pas plus grand, non seulement lancer de grandes lignes maîtresses, mais également de manifester une volonté politique pour lancer des actions plus concrètes. En 2016, au cours de mon mandat au sein du Parlement européen, j'ai assisté à l'agenda européen pour l'économie collaborative. J'ai d'ailleurs été rapporteur. Nous avons identifié la nécessité de distinguer les employeurs des professionnels. Quel genre de protection le droit européen du consommateur peut-il donner aux consommateurs et également la question des relations de travail. Nous savons que ce sont bien sûr des compétences nationales qui relèvent de chaque État membre, mais il faut qu'il y ait une base générale pour améliorer les relations de travail qui s'établissent dans ce domaine et bien sûr aussi évoquer la question de la fiscalité qui n'est pas des moindres. En 2018, cette année-ci, différentes études ont été lancées, l'une d'elles pour évaluer la législation en ce qui concerne l'économie collaborative dans le domaine de logement local, des villes comme Barcelone, Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Stockholm et Lisbonne, entre autres. Mais cette étude n'a pas encore été publiée, donc nous attendons les résultats de cette étude pour voir quelles sont les autres conséquences que nous pouvons retirer, et ceci pour améliorer la législation. Une autre étude publiée ou lancée en 2018 en ce qui concerne la réglementation des activités liées à l'économie collaborative. Une première conclusion, il s'avère qu'il n'existe pas une approche unique pour créer un environnement favorable, mais puisque différents acteurs sont touchés, qu'ils soient du domaine de l'économie conventionnelle ou collaborative, il faut analyser ces aspects. En avril 2018, la Commission européenne a lancé ses premières propositions législatives dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique avec de nouvelles normes. Comme cela a déjà été dit, nous avons besoin de nouvelles normes en ce qui concerne la transparence et il y a les plateformes en ligne, mais aussi la nécessité de compter sur davantage de transparence et d'efficacité en ce qui concerne la résolution des litiges dans ce genre de situation. Sont également énoncés, il y a la possibilité de créer un observatoire européen pour évaluer l'impact de ces normes. Une autre proposition a été également présentée et a trait à ce qui est en discussion, c'est-à-dire un accord pour les consommateurs, de nouveaux droits pour les consommateurs face aux services numériques gratuits. Encore vous dire que le Parlement européen m'a permis de participer à différents rapports du Parlement européen en indiquant différents points et en indiquant qu'il fallait relever de nouveaux défis législatifs pour répondre à cette nouvelle, ce nouveau faciès de l'économie collaborative, notamment en ce qui concerne le tourisme en Europe, puisque c'est un secteur si influencé, que ce soit en ce qui concerne le transport ou le logement par l'économie collaborative. J'ai inclus au nom du PPE un paragraphe sur l'économie collaborative dans le secteur du tourisme et là nous demandons une action concrète de la part de la Commission européenne avec sortie de propositions législatives. En 2016, un autre rapport sur les nouvelles opportunités pour les petites entreprises dans le domaine des transports. Là, nous avons déjà des modèles entrepreneuriaux collaboratifs et j'aimerais citer trois points en particulier. Nécessité de mettre à jour les lois du travail face à l'ère numérique dans chaque État membre. Deuxièmement, faire la distinction entre professionnels et opérateurs et ceci de plus en plus. Et puis, troisièmement, les activités qui sont réglementées en Europe, tous les métiers et les liens entre opérateurs et les services liés aux plateformes numériques. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut qu'il y ait davantage accès des professionnels au marché et y revoir les règles, notamment en ce qui concerne l'activité liée au taxi. Je termine, Président, vous dire enfin que ces actions que nous avons menées au sein du Parlement européen doivent se répercuter aussi bien au niveau de la Commission européenne et doivent servir également de contribution pour tout le travail qui est fait au niveau du Parlement portugais, Parlement national. Je sais que cette nouvelle législation a été lancée pour regarder ces modèles d'économie collaborative sous un autre jour en sauvegardant du point de vue législatif la volonté et la demande de plus en plus de consommateurs, mais également la question générationnelle, car il y a toute une nouvelle génération actuelle et future qui est liée et raccordée aux nouvelles technologies et qui utilise quotidiennement les nouvelles technologies. Donc il faut que nous ayons un encadrement légal, juridique, pour que nous puissions travailler au présent et sauvegarder l'avenir de ceux qui sont déjà dans le domaine numérique. Merci de votre attention.
When I'm not in Lisbon, at home in Vienna, I'm chairing the EU committee. The EU committee is just now. And there we have to debate, is a topic better in the regulation of whole Europe or on the national level? It's called subsidiarity.
Mais il est fou. Et le principe de proportionnalité également. Et je ne sais pas exactement si c'est mieux fait du côté de l'Union européenne. Nous savons qu'il y a de nouvelles technologies, une nouvelle économie, ces plateformes, mais voilà, ce ne date pas d'hier. D'hier que je fais de la politique, je sais que, par exemple, nous autres en Autriche, on ne peut pas avoir de législation pour légiférer. Et donc, les taxistes de Vienne et ceux d'autour de Vienne, c'est une guerre ouverte depuis toujours, c'est stupide. Vous pouvez prendre un taxi donc de la banlieue pour aller à Vienne, mais pas le contraire. Ce serait de la concurrence déloyale. Enfin bref, c'est complètement absurde. Donc Uber rajoute une couche. Si vous essayez de légiférer, vous perdrez le poste de maire. Car les taxistes sont donc les communicateurs les vecteurs de communication les plus importants en politique. Alors, nous vous écoutons pour des remarques de conclusion, chers collègues.
Je dirais que nous sommes au premier balbutiement de ce rapport. Nous allons utiliser la contribution du Parlement, de la Commission et vos contributions par rapport à chacun de vos pays, car la réalité varie entre les pays. Mais sur ce qui est essentiel, c'est avoir ce qui nous préoccupe, le droit des consommateurs, les droits sociaux et économiques des travailleurs et la question de l'équité ou de la justice fiscale. Je crois que ce sont là des thèmes qui permettront de rassembler les contributions de tous les horizons et d'aboutir à un rapport qui réponde aux attentes des pays, même si les problématiques qui se posent dans les pays sont très variées. Je voudrais remercier la contribution de nos invités avec qui nous poursuivrons le dialogue en vue de développer le rapport. Merci. Merci. Vous avez tous entendu l'invitation que vous a adressée Louis, et je suis certain que la discussion sur ce rapport très important se poursuivra. Nous en venons maintenant au tout dernier rapport. Mais, série, ne pourriez-vous que ouvrir le débat avec deux ou trois phrases? Je sais que ce n'est pas votre plus grande qualité que d'être succinct. Mais s'il vous plaît, exprimez-vous sur la qualité de l'air et des émissions des moteurs à diesel dans les centres urbains. Merci de votre évaluation de mes qualités. Je serai extrêmement bref. Nous sommes tous déjà très fatigués. Nous arrivons à la fin de cette réunion. Je suis très heureux que nous ayons décidé de traiter de cette question si grave que c'est à savoir la pollution atmosphérique. Nous avons fait une mission à Copenhague. Nous avons rencontré les responsables de l'Agence européenne de l'environnement et des responsables de l'OMS. Après tout ce travail, nous nous sommes aperçus qu'il nous faut réviser l'exposé des motifs, le rendre moins technique et le corriger ou le modifier afin de refléter les nouvelles tendance. Ce travail est en cours. J'ai quelques exemplaires de la nouvelle mouture. Donc, si cela vous intéresse, vous pourrez le voir. J'ai également des documents de l'OMS qui font état des nouvelles de l'évolution la plus récente. Ce problème appelle un débat en profondeur et je souhaiterais que la Commission organise une audition avec des experts. J'ai déjà des idées pour adresser des invitations à différentes parties prenantes, les municipalités, des représentants de l'OMS. Nous avons beaucoup parlé ici du rôle des municipalités dans l'urbanisme et la pollution atmosphérique est une question clé qui a de graves retombées sur les villes. Donc nous reprendrons la question en décembre. J'en discuterai avec le secrétariat afin de vous présenter une version révisée de l'exposé des motifs. Le président, peut-être pourrions-nous inviter des représentants de villes allemandes qui sont intervenus, la ville de Paris, qui a une réglementation très forte et ferme et spécifique, où Milan est aussi une possibilité. Mais dans toute l'Europe, cette réglementation est dévolue au niveau des villes, aux villes, et c'est très important. Je vous remercie et je clôt le débat sur ce point de l'ordre du jour. Programme de travail et priorité de la Commission. Nous devons envoyer des représentants à certains événements. À Vienne, Forum des droits fondamentaux. J'y vis et donc je pourrais y aller. Merci. Deuxièmement, Jean-Pierre Grin est été nommé comme rapporteur général sur les autorités locales et régionales et la réunion la 35e séance, session du Congrès se tiendra du 6 au 8 novembre à Strasbourg et ensuite la réunion plénière de la commission de bioéthique à Strasbourg du 20 au 22 novembre. Notre rapporteur sur la protection des personnes ayant des handicaps psychosociaux en ce qui concerne les mesures involontaires, Madame Reinmann aimerait y aller. Si vous êtes d'accord, nous la nommerons. Si elle ne peut pas, nous pourrions également demander à Madame Stella Kyriakides de le faire. Vous êtes d'accord? Merci. Non, vous en avez oublié, Monsieur le Président. Commission de Lanzarote. Réunion des partis à la commission de Lanzarote à La Haye, aux Pays-Bas, du 7 novembre. Qui pourrait y aller? Doreen. La commission ad hoc sur les droits de l'enfant du 16 au 18 octobre à Strasbourg. Je ne peux pas y aller. Mais Tuik est prêt à y aller pour moi. Et oui, il l'a déjà fait par le passé. Donc nous sommes tous d'accord. Réunion de l'OIT. À Genève, du 6 au 7 décembre. Qui s'intéresse à cette réunion? Je crois que cela est très pertinent par rapport au Brexit. Restez dans l'Union européenne, dit le président. Roger me dit toujours qu'il n'a pas le temps de faire son travail parce qu'il ne sait pas quelles seront les conséquences du Brexit. Donc, peut-être qu'il serait.
Me notice that you, if the Brexit is not coming in that time, that you are ready to go.
Bon, si le Brexit n'a pas encore eu lieu, vous êtes prête à y aller. C'était l'organisation, la réunion de l'Organisation mondiale du commerce, du 6 au 7 décembre. Des rapports maintenant. Je vais supprimer ce point parce que M. Ronco n'est pas là, Valerio n'est pas là, Ionut Marienstroet n'est pas là non plus. Les prochaines réunions en octobre à Strasbourg. La sous-commission sur les enfants, nous en avons parlé. Réunion conjointe entre cette sous-commission et la sous-commission de la jeunesse et des sports se tiendra à Tbilissi en Géorgie où nous espérons voir beaucoup d'entre vous. Ensuite, sous-commission sur le prix Europe se tiendra le 28 septembre en Ukraine à Ivano-Frankivsk. Est-ce que quelqu'un souhaiterait y participer? Si, enfin, vous n'avez pas besoin de me le dire maintenant. C'est tout près de chez vous. Oui, mais je n'y serai pas parce que je serai à New York. Mais j'encouragerai ceux qui n'ont jamais été en Ukraine à aller à Ivano-Frankivsk. C'est une ville merveilleuse. «
tel. C'est dans la partie occidentale de l'Ukraine, près des Carpates. Les dates, s'il vous plaît. Le 28 septembre. C'est demain, pratiquement. Vous pouvez nous lancer un coup de fil. Vous n'avez pas besoin de nous le dire maintenant. Vous, par exemple, ce n'est pas si loin. Les Vikings ont pris le bateau et sont allés à Kiev. Oui, mais c'était dans l'autre sens. C'était le début de l'aventure des Vikings. Je plaisante à moitié. Je suis très heureux d'avoir été ici. Merci, merci beaucoup, Louis. Vous êtes quelqu'un de formidable. Normalement, le président invite la commission dans son pays. Et donc, maintenant, Louis, je me pose un problème. Je voudrais inviter la commission à Vienne l'année prochaine. Je négligerai aucun effort à cet effet. Pour ceux qui s'intéressent au débat sur le nucléaire, je vous emmènerai dans la seule centrale nucléaire qui n'a jamais fonctionné du tout. Mais qui est toute prête à le faire, de telle sorte que vous voyez comment la chose se passe lorsque l'on fait un référendum et que, dans notre cas, 50,8% des citoyens ont décidé, des votants ont décidé de ne pas recourir à l'énergie nucléaire. Donc, dans ce cas, il vous faudra rester un peu plus longtemps, une nuit de plus. Donc, c'est aux alentours de Vienne. Il faut s'y rendre en bus. Mais vous pouvez y aller en toute sécurité. Vous n'avez besoin d'aucun équipement de protection. Et vous pourrez alors savoir comment, qu'est-ce que c'est que de vivre sans risque. Je vous souhaite une bonne soirée, mais j'espère que nous le passerons ensemble. Tout d'abord avec Madame Tinemann, nous allons voir le bateau qui n'émet aucune émission. Et ensuite, nous irons au centre Nord-Sud pour une réception. Tout commence ici avec les bus. Ah non, alors, secrétaire, les bus vous emmèneront tout d'abord à l'hôtel et vous emmèneront ensuite de l'hôtel au centre Nord-Sud. Si vous souhaitez aller avec Madame Tinemann au bateau, vous irez avec Bogdana. Ah, nous avons un bus pour ça également. Mais dans ce cas-là, si vous allez visiter le bateau, vous n'allez pas à l'hôtel. Donc, c'est soit le bateau, soit l'hôtel. C'est clair? Le bus partant d'ici. Le bus pour le bateau. Il part d'ici. Donc, il suffit que vous montiez dans le bon bus selon l'endroit où vous voulez aller, soit à l'hôtel, soit au bateau. Si je veux aller au bateau, vous prenez le bus qui va vers le bateau et vous, du bateau, vous serez emmené directement à la réception. Alors, d'ici au bateau et du bateau à la réception, c'est ça?
The only people who registered for the boat can go to the boat for security reasons.
Pour des raisons de sécurité, seuls ceux qui se sont inscrits peuvent se rendre sur ce navire pour des raisons de sécurité.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.